Salut les amis! Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Hello les amis, je vous fais ce petit message avant de commencer votre épisode, tout simplement pour vous annoncer une nouvelle qui est que je clôture le chapitre Conseil de Growth. C'est les derniers épisodes que vous aurez la chance d'écouter. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 2 ans et demi que je crée du contenu sur ce podcast-là. J'ai invité des gens qui ont été fabuleux, hyper intéressants, qui ont apporté énormément de valeur. J'ai été sur un format interview, on a été sur du format très actionnable, des tips concrets que vous pouvez implémenter dans votre business au quotidien. Donc, je pense avoir rempli la mission. Et surtout, on arrive bientôt à plus de 100 épisodes. Donc, je pense que c'est un bon chiffre symbolique pour se dire que on va mettre fin à ce chapitre, mais c'est pour faire naître un nouveau projet qui s'appelle S'entreprendre, donc un nouveau podcast que je lance, parce que je suis convaincu que entreprendre, c'est s'entreprendre soi-même, et c'est cette vision des choses que j'ai envie de partager sur un format solocast, donc je serai tout seul, il n'y aura pas d'interview, et je partagerai tous mes enseignements hebdomadaires, des concepts clés de l'entrepreneuriat, ma vision des choses sur justement le fait de s'entreprendre soi-même, de grandir, d'évoluer, de monter en compétences et de devenir meilleur dans ce que l'on fait tout en étant épanoui. J'espère que ce nouveau podcast pourra vous faire kiffer. En tout cas, merci, merci du fond du cœur pour ces 2 ans et demi de malade, de folie, de m'avoir suivi, d'avoir écouté ces épisodes, en tout cas d'en être arrivé jusque-là, si vous en êtes jusque-là. Et j'espère vous retrouver du coup sur ce nouveau format, ce nouveau podcast qui je pense pourra encore plus vous plaire parce que j'y prendrai encore plus de kiff et de plaisir. Et pour rejoindre tout ça, on se retrouve dans la description de l'épisode tout en haut. Je vais mettre le lien pour rejoindre le podcast S'entreprendre. Et sinon, vous pouvez taper sur les barres de recherche ou me regarder sur LinkedIn mes posts pour que je mette en avant en ce moment pour communiquer sur ce podcast. Voilà, merci beaucoup, kiffez bien cet épisode, et puis on se retrouve bientôt sur le nouveau podcast S'entreprendre. Ciao! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et je suis très content aujourd'hui d'accueillir Gaëtan Pertuis, cofondateur de Superhot, qui va nous expliquer aujourd'hui quels sont les frameworks que tu as pu mettre en place pour ton business pour aller chercher de la croissance. Tu pourras nous en dire un peu plus justement sur les chiffres que tu as pu obtenir aujourd'hui avec Superhot. Mais déjà, Gaëtan, comment tu vas?
Ça va super, merci. Merci de me recevoir dans ton podcast. Ça a été un plaisir d'écouter pas mal d'épisodes de celui-ci et avec plein de gens intéressants. Donc, j'espère que je serai à la hauteur et pourrai partager autant de conseils pratiques à ton audience pour les aider à bootstrapper leur entreprise et à se développer.
Trop bien, trop cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent?
Yes, alors je m'appelle Gaëtan Pertuis, je suis entrepreneur, je suis le cofondateur et CMO de Superhot.com. Alors Superhot, c'est une entreprise qui a été créée d'abord en 2017 comme entreprise de formation où on accompagnait des lois en courte durée en fait à se développer, à mieux gérer leur location. Et puis en 2020, on a décidé de créer un SaaS et de transformer un peu la boîte. Et du coup, un peu moins de 3 ans, et en étant complètement bootstrap, on a développé un SaaS qui fait plus de 7 chiffres de ARR. Donc, on a dépassé le million d'euros de ARR. Et voilà, ça a été une belle aventure. On a fait plein de bourdes aussi durant le parcours, comme je pense pas mal d'entrepreneurs, au passage. Et puis, on a appris de cette expérience pour se développer et continuer à se développer. Et du coup, je vais essayer de vous partager un petit peu les frameworks qui ont bien marché pour moi et pour l'entreprise au fil des années. Qui s'est développé aussi via le travail acharné d'un peu toute l'équipe Superhot et qui aujourd'hui commence à porter ses fruits.
Trop bien, donc là c'est un épisode enseignement sur tout ce que tu as pu expérimenter, framework que tu as pu tester et mettre en place. le premier framework que tu voulais partager, c'était le PMF automatique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Yes. Alors, la première chose nous, qui a été un unfair advantage un petit peu pour nous sur ce marché, c'est qu'on a eu en quelque sorte un product market fit assez rapide sur l'outil. On n'a pas eu à itérer 10 000 ans pour essayer de trouver une solution parce qu'on avait deux choses. Déjà, on est loin en courte durée nous-mêmes, que ce soit mon associé, moi ou beaucoup de personnes dans l'équipe. On est au contact de loin en courte durée des conciergeries depuis très longtemps et on connaissait vraiment les pain points qu'ils avaient sur les solutions existantes et ou quand il n'y avait pas de solution en fait. Et du coup, on a pu créer une offre et un produit qui était vraiment adapté à leur situation et à leurs problématiques. Et du coup, c'est un truc que j'encourage vraiment aux gens qui se lancent, c'est de vraiment se baser sur leur unfair advantage et leur connaissance du marché, d'un marché donné, plutôt que d'essayer de freestyle quelque chose parce qu'il y a une opportunité commerciale quelque part. Plutôt essayer de trouver quelque chose là où ils sont vraiment experts en fait, d'un sujet et où ils ont une expérience unique qu'ils vont pouvoir amener sur la table pour créer quelque chose d'unique en fait, et qui va vraiment répondre aux besoins du marché donné. Ça t'aide parce que du coup, même si on a évidemment pris beaucoup de feedback user pour itérer sur la solution, la rendre meilleure, etc. Mais déjà, on est arrivé avec un socle qui était solide et qui répondait vraiment à des problématiques réelles du domaine, en fait. Donc ça, c'est un des premiers frameworks que j'utiliserai en fait, si je me lançais de zéro. C'est que je chercherai dans ma vie personnelle, ma carrière, etc., des unfair advantages que j'ai, une connaissance marché précise et fine que j'ai pour lancer mon idée, plutôt qu'essayer de me lancer sur... le dernier truc, la vague à la mode ou j'en sais rien qui pourrait être bénéfique entre guillemets parce qu'il y a une opportunité commerciale à aller chercher, vraiment de me baser sur des données clés que entre guillemets moi seul ai, et une connaissance marché fine de là où je vais me lancer.
Yeah, c'est super intéressant parce que dans ton cas en plus tu t'es lancé, t'as commencé à faire de la prestation de service, donc aider ce persona là à mettre en place, tu vois, ce que tu fais aujourd'hui en termes de produits, mais ça t'a permis d'expérimenter, de comprendre au maximum les enjeux, les problématiques, et même c'est quelque chose que toi t'avais expérimenté toi à titre personnel, et qui fait que tu vas être passionné par ce marché-là, t'auras un fit, et souvent en fait t'as raison, les gens ils vont vouloir se focaliser sur une opportunité, tu te focalises sur une opportunité, mais derrière tu te rends compte que le secteur, en fait, il te fait pas trop plaisir, le type de client que t'accompagnes, en fait, tu t'en fous un peu, et du coup au final ça dure pas beaucoup dans le temps.
Ouais, c'est ça. Puis l'avantage aussi, et à l'époque c'était mon associé qui a lancé ça, c'est qu'il avait aussi une place assez dominante dans le marché en termes d'influence dans ce domaine en fait. Et la combinaison du fait qu'on soit là en courte durée, que lui c'est un ancien tech lead d'IBM, donc il avait une bonne connaissance de la technique, du management des développeurs, etc. Et puis aussi de mon côté au niveau marketing et growth et compagnie, ça a fait un bon mix, on va dire, pour lancer quelque chose qui marche.
Un bon mélange. Trop bien. Le deuxième framework que tu voulais partager, c'était la récurrence du problème et la stickiness du produit. Je veux bien que tu définisses un petit peu tout ça.
Yes. Bon, après, il y a pas mal d'anglicisme, mais en gros, la récurrence du problème, c'est que avant de se lancer dans un business model, j'essaierai de trouver un truc où je peux... Il faut vérifier que le problème est récurrent, en fait, pour ta cible, que t'es sur un marché, en fait, où... déjà, c'est un marché qui est en expansion, qui n'est pas en train de se casser la gueule, où il y a les gens qui ont un problème et qui ont de l'argent pour le résoudre, et où ce problème, idéalement, est récurrent. Comme ça, ça te permet de créer une solution où tu vas pouvoir vendre avec récurrence aussi. Et la stickiness, ou un petit peu l'aspect collant de ton produit, c'est que, en gros, s'ils retirent ton produit, du jour au lendemain, ils ne sont pas bien, quoi. Et une fois qu'ils ont goûté et que tu as arrivé à gérer ton acquisition comme il faut et ton activation user, qu'il n'ait pas envie de sortir parce que il est... C'est pas qu'il est bloqué dans ton produit, mais en quelque sorte, il l'est du fait de son utilisation, en fait. Et du coup, alors, ça vient aussi avec le modèle SaaS. Du coup, souvent, les SaaS, quand ils marchent, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce business model. Mais en gros, pour moi, c'est super important, quand tu réfléchis à ton business model, de trouver un problème qui est récurrent auprès d'une cible précise qui aurait de l'argent pour le résoudre et qui a envie de le résoudre. Et aussi souvent, alors, c'est dans le monde des startups, ils parlent un peu d'effet vitamine versus painkiller. C'est en gros vraiment un produit qui résout un problème, tu vois, qui est embêtant, là, que tu as vraiment envie de résoudre, et pas juste un nice to have, que c'est la cerise sur le gâteau qui est sympa à avoir, quoi. Et SuperHot, c'est vraiment ça, tu vois. Si tu n'as pas SuperHot en place, tu vas passer des heures et des heures à gérer ta location, à synchroniser tes calendriers, gérer tes messages, pour coordonner ton équipe de ménage, c'est compliqué, tu vois. Et en fait, tous ces micro-problèmes, ils interviennent plusieurs fois dans la semaine, voire plusieurs fois par jour, en fait. Et du coup, le user, il a tout le temps un apport de valeur récurrent. Et c'est ça qui permet d'avoir un business model récurrent derrière et un paiement qui est récurrent. Et du coup, pour moi, tu peux l'engineer dans ta façon de penser ton idée. Ou à la base, en fait, tu vas chercher les problèmes de ta cible, de ton marché sur lequel tu as un unfair advantage, etc. Et essayer de trouver des problèmes récurrents qui sont vraiment des problèmes embêtants et qui sont prêts à résoudre et à payer pour, en fait. Et tu as plein d'exemples comme ça. La plupart des SaaS que j'utilise aujourd'hui, c'est exactement ça, en fait. Si je te prends Heroes, par exemple, pour les ads, le problème qui me répond récurrent, c'est que moi, je check les ads tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Il me faut une qualité de données pour prendre des décisions qui est efficace. Et du coup, lui, il doit traquer tout le temps, en fait, toutes les conversions, tous les appels de vente qui sont faits, tous les trucs, continuellement. Et si je l'arrête, en fait, j'ai plus accès à cette donnée. Et en plus, il feed les IA de Google, Facebook et compagnie avec cette donnée. Donc, si je l'arrête, potentiellement, les campagnes seront moins efficaces parce que l'attribution est mal gérée. Enfin, bref, tu as une récurrence du problème qui. Et en plus, ça c'est pas donné comme outil, mais du coup, qu'on est prêt à payer parce qu'on est prêt à le résoudre, en fait. Et si tu prends n'importe quel SaaS que j'utilise, je pense que tu peux arriver à trouver le problème, en fait, qui résout pour toi de manière, comme ça, récurrente, et qui fait que tu continues de le payer, que tu continues d'utiliser. Donc, si tu arrives à le penser en amont dans ton business model, derrière, tu as plus de chances d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. En plus, la valeur de ta boîte, entre guillemets, va être plus élevée parce que du coup, tu as cette récurrence qui s'installe, tu as cette croissance aussi qui peut s'installer, à condition que tu maîtrises bien ton churn et compagnie, mais du coup, une boule de neige qui commence à se créer. Et qui du coup est vachement plus intéressante et aussi plus sympa, je trouve, à opérer que quand tu fais du one shot, genre où tu vas vendre un produit une fois, où il te faut toujours chercher des nouveaux clients pour arriver à développer ta boîte, quoi.
Ouais, le one shot, c'est un peu le problème, c'est que dès que tu n'as plus de récurrence, dès que tu as fait ta presta ou dès que tu as vendu un produit qui correspond à une problématique et qu'il n'y a plus cette récurrence, tu dois repartir de zéro. En gros, j'ai l'impression que moi, c'est des business un peu à retardement, sauf s'il y a de la récurrence dans le besoin et c'est par période, quoi, où on a besoin de tes services. Donc là, ça a peut-être du sens. Mais c'est vrai que souvent, la récurrence, pour beaucoup de business, c'est un problème. Et t'as raison, si on crée un produit où on arrive, tu vois, à aider les personnes de manière récurrente et faire en sorte, tu vois, qu'on reste à chaque fois, tu vois, dans leur esprit et qu'ils ont pas du tout envie de partir, même eux, ça leur viendrait pas du tout à l'esprit d'arrêter la solution, là en vrai t'as gagné.
C'est ça. Et puis après, ça peut être, tu peux avoir une partie de ton, on pourra en parler après aussi, la combinaison front-end, back-end, etc. Tu peux avoir une partie de ton business model qui est du one-shot, et pour pouvoir faire une acquisition, ça peut être pratique parce que souvent c'est, entre guillemets, l'effort pour s'engager à quelque chose de récurrent est plus important que si tu vends un truc one-shot. Et souvent tu peux vendre des trucs one shot plus cher que si c'était une récurrence qui est très chère. Donc tu as plein d'autres aspects qui peuvent être intéressants sur du one shot aussi, mais je pense que c'est important, si tu veux faire un business un peu comme ça, ces compagnies, que ce soit vraiment un truc récurrent dans le temps. Et ça peut être ton back-end qui est récurrent. Nous, c'est un peu ça qu'il y a au sein de Superhot, en fait. On a aussi des solutions one shot, mais en fait notre back-end et ce qui est aujourd'hui le poumon de Superhot, c'est du récurrent, en fait.
Trop bien. Tu parlais d'acquisition, ça nous mène au troisième framework. Acquisition maîtrisée et rentable. Quels sont les leviers que vous avez mis en place?
Alors du coup, au niveau de l'acquisition, en fait, pourquoi c'est important d'en parler pour moi, c'est que la plupart des startups, un peu comme nous, dans le monde des SaaS et compagnie, à moins d'être dans une place où « winner takes all », entre guillemets, où en gros, à partir du moment où t'es le plus gros, t'as tout gagné et plus personne n'en aura sur le marché, je trouve ça dommage de vouloir lever de l'argent très très tôt. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de lever de l'argent, peut-être que plus tard tu en auras besoin pour arriver justement à scaler, arriver à développer ta boîte, mais beaucoup de startups, en fait, ils vont juste avoir un PowerPoint et essayer de lever de l'argent comme ça, du coup se diluer beaucoup parce que leur idée ne vaut pas grand-chose à ce moment-là, et souvent parce qu'il peut y avoir des besoins de fonds pour développer la technologie, mais souvent aussi c'est pour gérer l'acquisition et leur go-to-market stratégie, en fait, ils ont besoin d'argent pour arriver à acquérir des clients. Nous, on a réfléchi à la chose un peu différemment du fait que je viens du monde de direct response marketing et en fait d'un endroit où tu dois faire du profit day one, entre guillemets, et souvent tu n'as pas d'investisseur derrière toi, donc tu ne peux pas cramer de l'argent à tout va. Et plutôt que se dire en mode on va lever des fonds X centaines de milliers d'euros ou millions d'euros pour essayer de faire notre acquisition, développer la boîte, etc., on va essayer de réfléchir en mode bootstrap, en étant intelligent et en essayant de rentabiliser l'acquisition de manière très rapide. Chose qui est difficile à faire avec un SaaS. La plupart des SaaS, soit justement ils vont lever de l'argent, cramer de l'argent des investisseurs, faire plusieurs rounds pour essayer de développer leur boîte, soit ils vont faire un genre de setup fee où en gros tu payes un one shot à l'entrée pour mettre en place l'outil et compagnie, mais du coup ça crée de la friction à l'activation du user et puis à l'acquisition parce que tu mets un one shot au début qui est difficile à avaler. Soit tu vas sacrifier du ARR et du coup tu as vraiment intérêt à bien maîtriser ton churn et avoir un bon fond de roulement parce que sinon tu vas avoir besoin de lever des fonds. Enfin bref, ça peut être une danse assez compliquée à jouer et surtout tu deviens dépendant vraiment des investisseurs parce que du coup tu dois financer ton acquisition d'une manière ou d'une autre, à moins que tu aies toi-même déjà de l'argent, tu as besoin de fonds de roulement quoi. Nous ce qu'on s'est dit c'est qu'il faut trouver un moyen de rentabiliser à court terme l'acquisition, surtout quand on fait beaucoup d'acquisitions payantes, mais même si c'était genre des stratégies growth hacking etc, ça prend du temps, donc in fine c'est de l'argent aussi quoi. Donc il fallait qu'on puisse rentabiliser l'acquisition très rapidement et pouvoir faire ça de manière scalable. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a inventé un programme qui s'appelle Super Hotel Elite, qui en gros est un programme d'accompagnement qui lui est pas du tout scalable, contrairement au SaaS, c'est-à-dire qu'il y a plein d'opérations manuelles qu'on va faire pour le user ou avec le user, et qu'en fait, mais qui a par contre une valeur perçue qui est beaucoup plus élevée que l'outil en lui-même, en tout cas au début, surtout quand on était en mode MVP, c'était vraiment le cas, et que du coup on peut vendre pour l'équivalent de 4 fois l'ARR moyen en fait. Et dans cet accompagnement, on a un essai à l'outil. Et du coup, l'avantage de tout ça, c'est qu'on peut dépenser déjà 4 fois plus pour acquérir un customer, même si on break-even sur Super Hotel Elite, c'est pas le cas, on a des bons ROAS dessus, mais même si on break-even, en fait, on fait de l'acquisition gratuite, entre guillemets, et on a un paiement one-shot qui nous fait une avance de trésorerie qui nous permet de refinancer notre acquisition derrière. Donc ça a permis de mettre en place une boule de neige comme ça, où en fait au début avec un peu d'argent on a pu faire de la pub, puis faire entrer de l'acquisition, faire entrer des clients qui nous payaient une somme plus importante que le MRR moyen, et du coup réutiliser cet argent dans l'acquisition, le développement de la boîte, le recrutement, etc. Chose qu'on n'aurait pas pu faire en fait si on n'avait pas eu ce genre de modèle en fait. Si on avait dû vendre du MRR à court terme, le besoin en fonds de roulement aurait été beaucoup plus important et n'aurait pas été financé justement par cette acquisition. Et du coup, je pense que si jamais il y a des boîtes technologiques aujourd'hui qui veulent chercher beaucoup de scale, etc., c'est top, et dans leur acquisition aussi. Mais peut-être penser à un truc un peu comme ça, tu vois, où tu vas vendre un produit connexe en front-end dans ton acquisition, ça peut être super intéressant pour justement faire rentrer les gens dans ton univers, entre guillemets. Aujourd'hui, on acquiert plein de leads, entre guillemets, gratuitement parce que toute l'acquisition, elle est financée. Même au-delà, on a des super ROS rapides, en fait. Et du coup, si tu arrives à mettre ça en place, bah, tu as une acquisition qui est gratuite et tu acquiers des leads et des users sur ton outil sans avoir besoin de financement externe ou d'autres stratégies d'acquisition. Et du coup, ça, ça a été un peu un cheat code, entre guillemets, dans notre acquisition, où je pense que si on ne l'avait pas, ça aurait été beaucoup plus difficile d'acquérir des clients et compagnie. Après, il y en a plein d'autres. On a aussi une super communauté, on a fait du content, on a eu du leverage à d'autres endroits. Mais l'utilisation de la personal brand aussi, on pourra en parler. Mais en gros, ça a quand même été un super levier d'acquisition de passer par un système un peu comme ça. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du one-shot versus recurring. Ça, c'est un produit one-shot qu'on vend à l'instant T, mais qui en fait, derrière, même les gens qui prennent ce produit-là, in fine, ils finissent sur du recurring avec le MRR en fait. Donc du coup, ça peut être aussi un point de ta stratégie qui est un one-shot. Et puis après, derrière, dans le back-end, tu peux profiter de manière recurring. Et surtout, envoyer sur du recurring, une fois que les gens te font confiance, ils ont déjà travaillé avec toi de manière directe, etc. Et c'est beaucoup plus facile, en fait. Donc, bref, je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire ça. Après, l'inconvénient, c'est que ça scale beaucoup moins. On ne peut pas avoir 200 000 clients super hôtelites, tu vois. C'est pour ça qu'on est obligé de limiter, en fait, les places dans le programme. Mais bon, ça a aussi des avantages, tu vois, ça crée de la scarcity parce que du coup, pas tout le monde peut rentrer dedans. Enfin bref, tu peux arriver à jouer avec ça pour arriver à bootstrapper ton business et à gérer une acquisition de manière intelligente et rentable en fait. C'est surtout ça en fait. Il faut que tu arrives à trouver un système qui te permette de faire de l'acquisition scalable qui est rentable. Et ça a été le système pour nous pour le faire.
Trop bien. Donc, tu as mis en place la boule de neige qui s'auto-alimente et qui va générer de l'acquisition. Après, tu as un enjeu principal, c'est comment faire en sorte que les personnes restent, que tu n'aies pas trop de churn et que la lifetime value soit bonne. Quel est le framework que tu as utilisé justement pour combler souvent ce pain? Parce qu'on va chercher souvent acquisition, c'est très comme ça en plus en France. Comment tu fais pour la rétention et la lifetime value?
Alors effectivement, appuyer sur l'acquisition si tu as un churn catastrophique et que les gens ne restent pas, c'est le meilleur moyen de faire un bad buzz où tu marketes un truc qui ne marche pas, donc ce n'est pas terrible. Donc je pense que l'acquisition, quand tu démarres, tu es obligé parce que sinon tu n'as personne à qui parler, tu n'as pas de client, tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Mais une fois que tu as maîtrisé, que tu as mis en place une machine d'acquisition qui marche C'est super important de switcher ton focus et aller chercher des millimètres pour minimiser ton churn au maximum. Comme ça, tu maximises ta LTV. Nous, on a la chance, et justement parce que le produit est très sticky et qu'une fois que tu es dedans, tu n'as pas envie de partir, qu'on a déjà de base un churn qui est faible, voire même négatif certains mois. J'en parlerai aussi au niveau du pricing, c'est important de le travailler. Mais c'est super important que même toi, en tant que marketeur et toute ton équipe, soit focus sur la satisfaction client et en fait la croissance de ta user base, justement parce qu'il n'y a pas de trou dans le seau. Quoi. Tu vois, parce que tu as beau mettre de l'eau dans un seau, s'il est troué, in fine, tu peux envoyer la sauce autant que tu veux, in fine, il finira par se vider. Tu vois. Et surtout, quand tu arrives à scale, ton churn, c'est super important de le maîtriser parce que, je sais pas moi, si tu as 10% de churn quand tu as 10 clients, bon, tu perds un client, c'est pas très grave. Quand tu en as 10 000, ben, tu as perdu 1 000 clients ce mois-ci. Quoi, tu vois. Donc, ça commence à devenir problématique et beaucoup plus compliqué à combler en acquisition. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut le minimiser au maximum. Et le seul moyen de le minimiser, en fait, c'est que, un, les gens, ils aient une vraie valeur qui est tirée de ton produit et que ce soit sticky et récurrent, comme ce que je disais tout à l'heure. Et deux, minimiser les points de friction qui peuvent générer de l'insatisfaction. Donc, nous, typiquement, en gros, à moins que la personne arrête la LCD, donc la location courte durée, les seuls autres moyens qui partent de l'outil, c'est soit il a rencontré un gros bug qui lui a fait perdre de l'argent ou du temps, etc. Et du coup, il n'est pas content. Et du coup, il a envie de partir. Soit il a un problème avec un bug qui va lui donner envie de partir et du coup il va se désinscrire. Soit il a eu un problème à un moment qui n'a pas été résolu par le support ou l'équipe Customer Success et du coup il y a un problème là-dedans. Et ça, on s'en rend compte parce que déjà toute personne qui se désinscrit, on a un formulaire qui part pour la désinscription, déjà pour garantir les données user où en fait ils doivent nous certifier qu'ils ont bien envie qu'on supprime leurs données. Mais en plus, on prend un feedback sur pourquoi ils partent. Et du coup, derrière, on a su les points de friction. Et donc, nous, notre challenge, en fait, c'est résoudre la deck technique. C'est pour ça qu'on lance une V2 avant le lancement international, parce qu'on a lancé une V1 où, en fait, il y a quand même une deck technique importante et pas mal de trucs à régler. Donc, on est en train de lancer une V2 où on a refait tout le code de zéro de l'outil avec des meilleures fonctionnalités, un truc plus stable, plus maintenable, etc. Et en plus, on est en train de faire des recrutements. Et puis, il y a déjà une super équipe en place qui fait du customer success, du customer support. On essaie de minimiser le response time, tu vois, sur le support. Comme ça, bah, plus tu réponds vite et plus tu as des réponses pertinentes, plus les gens sont contents. Enfin, tu vois, en fait, il faut déconstruire ton problème dans ses principes premiers, un peu by first principle, et essayer de trouver les points dont tu es certain et focus là-dessus. Donc nous, bah, typiquement, c'est pas de bug, un support au top qui répond vite avec des réponses au top. Le mieux, c'est qu'ils n'aient même pas besoin de contacter le support parce que justement, tout est super clair dans l'outil, c'est super ergonomique, ils n'ont pas de bug, etc. Donc, pas besoin de contacter le support. Et si jamais ils ont besoin de le contacter, que ce soit hyper réactif et avec des réponses ultra pertinentes d'experts de la LCD, tu vois. Et donc nous, ça a été ça, déconstruire ce problème-là et maintenant, on se focus dessus. Et donc, on a toujours un gros focus sur l'acquisition, avoir plus de clients, etc. C'est super. Mais en fait, un des gros points sur lesquels on se focalisait aussi, c'est garantir la satisfaction des clients en créant la meilleure solution possible est dominante sur le marché et puis en faisant en sorte que ton service il est bien maîtrisé et où tu as une satisfaction client qui est vraiment au cœur de toutes tes discussions. Nous, tout ce qu'on fait en fait pour le client et toutes nos discussions en interne, oui, on parle d'acquisition, etc., mais 90% de nos discussions, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que notre client il soit heureux, qu'on lui apporte la meilleure solution possible, qu'on se développe au mieux, qu'il ait un maximum de succès avec ses locations courte durée. Enfin, tu vois, vraiment notre focus il est là-dessus et c'est ce qui te permet de minimiser ton churn. Et après, tu as aussi, au-delà de ça, dans la façon de penser ton pricing en fait et ton business model, si tu le penses de sorte à ce que ton pricing évolue en fonction du succès de ton user ou de ton utilisation du produit, après d'ailleurs tu peux carrément avoir des churns négatifs. Nous c'est ce qu'on a assez régulièrement et c'est pour ça qu'on a réussi à croître aussi vite, c'est qu'en fait les users actuellement sur l'outil avec leur augmentation du nombre de biens, parce que nous notre pricing il est basé sur un nombre de biens en fait, t'en as, en gros c'est 57€ hors taxe par mois pour 3 biens et puis après chaque bien au-delà que tu rajoutes c'est 7€ hors taxe par mois en plus. Ben en fait si tu as 10 000 users et qu'en moyenne, tu as un user sur 5 qui rajoute un bien par mois, j'en sais rien, un truc comme ça, bah, tu vois que ça crée une courbe exponentielle parce que bah, chaque user pourra potentiellement ramener encore plus de biens et donc ça te crée un effet flywheel comme ça où ton business model augmente. Et du coup, si tu arrives à avoir une augmentation du MRR qui est plus importante avec les gens qui rajoutent des biens sur la plateforme versus les gens qui partent de la plateforme, bah, tu as un churn qui est négatif et là, ça permet de lancer la machine, quoi. Et si en plus, par-dessus, tu as du référal, on pourrait aussi en parler, bah ça te permet de vraiment créer une boule de neige qui marche bien. Quoi.
Ah, je sais pas mal, tu vois, le coût des billets en plus qui te permet justement de d'aller chercher encore plus de paniers et d'alimenter la flywheel. Trop bien. On parlait de communauté aussi en amont. Tu me disais que tu avais créé une communauté et le but, et moi je suis assez convaincu de cet aspect communautaire pour engager au maximum du coup les clients et même attirer davantage de futurs clients. Comment vous avez mis en place votre communauté? Comment vous l'avez créée? Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors déjà, le premier truc, c'est que y a mon associé qui a une personal brand qui est assez forte sur ce marché-là. Du coup, déjà à la base, cette personal brand, ils ont fait une association directe de notre brand d'entreprise, si tu veux, avec sa personal brand à lui. Donc déjà, ça a aidé à fédérer des gens qui avaient les mêmes valeurs que Mathieu, mon associé, et moi aussi, et de toute l'entreprise, en fait, où on a des valeurs qui sont communes et un objectif qui est commun. Et là, et en fait, ça, je pense que c'est la prémisse de la création de quelque chose qui est puissant au niveau communautaire, c'est que tu as vraiment des valeurs, un socle de valeurs qui est commun entre les gens, et ils vont s'associer à ça, au-delà de ta marque, de ta boîte, etc., mais vraiment de créer un espace d'échange où ces valeurs sont communes. Donc ça, c'est le premier truc, c'est réfléchir. Alors, ça peut paraître assez ésotérique, mais vraiment, quelles sont les valeurs? Quelles sont tes valeurs, toi, propre, en tant que fondateur de ta boîte entre guillemets, l'égérie de ta boîte et ta personal brand? Donc, quelles valeurs tu veux projeter? En fait, ça doit être authentique, donc ça doit venir de toi. Donc, nous, typiquement, tous les gens qui sont dans la communauté, c'est des gens qui veulent devenir libre financièrement grâce à la location courte durée, qui sont prêts à se dépasser pour ça, qui sont warriors, tu vois, dans leur tête et qui ont envie de se développer et en fait qui nous ressemblent. Et du coup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné un espace d'échange. Je pense aussi que c'est important. Au début, tu peux insuffler cette communauté en étant toi très actif, en publiant du contenu et justement leur donner un espace d'échange. Donc nous, c'est un groupe Facebook avec des conversations Messenger, si tu veux, factuellement, comment on l'a mis en place. Mais ça pourrait être un groupe school ou n'importe quoi. Enfin, tu vois, un endroit en fait où ils peuvent échanger entre eux et où au début, tu es très présent pour insuffler quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, dans la communauté, c'est les utilisateurs eux-mêmes et tous les membres de la communauté qui échangent entre eux en fait et qui s'entraident. Et du coup, on a mis cette atmosphère où vraiment on recherche la bienveillance dans la communauté et de l'entraide. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu vois, il y a des gens, ils vont avoir un souci avec leur LCD, bah, d'autres vont leur donner des conseils qui sont déjà passés par là. Ils recherchent une assurance pour leur location courte durée, bah, t'en as d'autres qui veulent les donner des conseils. Ils ont un problème avec l'outil X ou Y, bah, ils vont poster une question, il y a quelqu'un qui l'a déjà rencontré, il va leur aider. Enfin, en fait, ça a plein d'effets comme ça d'entraide, de gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes objectifs et les valeurs communes. Et après, ça crée comme ça quelque chose de fort, en fait, qui va au-delà même du business. Et ça te permet de créer vraiment une connexion avec tes clients, en fait. Et je sais pas comment expliquer, une relation qui va au-delà de du business classique, entre guillemets.
Ta communauté, du coup, elle est dédiée aux personnes qui font partie du produit? Qui font partie du produit, du coup, qui ont acheté, ou c'est aussi des personnes qui font pas du tout partie de Superhot et vous mettez aussi à disposition? Parce que ça, c'est toujours une dualité. Je sais que nous, on a eu souvent ce questionnement, tu vois. Est-ce que la communauté, faut la mettre gratuite, libre d'accès, ou est-ce que c'est une feature, tu vois, de ton produit?
Yes. Alors, c'est vrai que ça peut. Il y a des avantages et inconvénients aux deux. Si tu le mets que à tes clients, bah, ça crée une feature à ton produit qui est intéressant parce que du coup tu obtiens de la valeur de cette communauté et si tu te désinscris du produit etc, bah, tu perds ça entre guillemets. Nous entre guillemets c'est pas trop l'approche qu'on a adoptée. Il y a la majorité des gens sont des users en fait dedans aujourd'hui, mais il y a aussi des gens qui sont pas forcément users qui nous auront par exemple suivi sur les réseaux sociaux etc, qui ont entendu parler de la communauté. Par contre, elle est pas ouverte à tout le monde, c'est à dire que pour entrer dedans déjà faut que tu sois lourd en courte durée. Et il faut que tu aies certains critères en fait où on te filtre à l'entrée. Et si jamais y a aussi, on est là un rôle de modération aussi, la communauté. S'il y a des comportements qui sont pas viables pour la communauté ou qui apportent pas de la valeur à la communauté, la personne elle reste pas dedans, tu vois. Et typiquement des gens qui vont se faire que de la pub ou qui vont essayer de bref des trucs qui sont pas terribles, qui apportent aucune valeur à la communauté, bah ils restent pas dans la communauté, tu vois. Donc il y a quand même un filtre qui est fait. Déjà à la base, tu dois être loin en courte durée, une conciergerie pour venir dans la communauté. La plupart sont quand même des clients en fait qui sont dedans, mais il y a aussi des non-clients et on peut accepter les gens qui ne sont pas clients dedans. Mais par contre, il faut qu'ils aient les mêmes valeurs que nous, le même mindset que nous et un comportement qui soit approprié pour fit dans la communauté en fait.
Ouais, tu filtres quand même les bonnes personnes évidemment. Dans notre funnel art, il y a le R de référal dont on a parlé, ouais. T'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait justement pour faire en sorte que les personnes qui aimaient ton produit, qui restaient longtemps, puissent aussi recommander autour d'eux? Du coup, bah, super hôte.
Yes. Du coup, nous, comment on a mis en place des stratégies pour encourager le referral? Donc déjà, la prémisse du referral, c'est que ton produit soit top. Si ton produit n'est pas bon, ils ne vont pas en parler, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Donc déjà, il faut créer un bon produit qui résout vraiment un problème et ça te simplifie la vie de toute façon dans tout ton marketing et tout ce que tu vas faire derrière. Mais une fois que tu as ça, tu as plusieurs moyens d'encourager le referral. Soit c'est « embed » entre guillemets dans ton business model et en fait, tu as un effet social entre guillemets à ton business model qui fait que les gens vont en parler naturellement parce qu'ils vont obtenir encore plus de valeur dans ton produit en ajoutant des gens dedans entre guillemets. Donc ça, nous, ça pourrait être un petit peu via la gestion d'équipe et compagnie où en fait, si t'es une conciergerie, bah, tu peux avoir un long couteau duré qui va t'ajouter dessus. Du coup, tu entends parler de super hot et peut-être que tu en as besoin pour gérer ta conciergerie, donc tu vas le prendre pour toi-même. Ça peut être un des moyens que nous, ça a été mis en place, mais c'est pas le moyen principal. Il y a un autre truc aussi, un autre effet, c'est que nous, dans notre produit, tu as un aspect un peu baguette magique où en fait, notre produit, c'est plus tu l'as, plus tu obtiens de la valeur et plus tu peux être bon en tant que l'or en courte durée. Et du coup, si tu n'as pas forcément d'intérêt à dire à ton concurrent, le produit est génial, utilise-le, tu vois. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour passer cette barrière-là, on a mis un encouragement à le faire qui est via un système d'affiliation où en fait, tu as tous les utilisateurs qui deviennent dès qu'ils sont utilisateurs, peuvent devenir affiliés. Et en fait, ils ont un bouton sur la plateforme qui leur met une page vers l'explication du programme d'affiliation où en fait, ils gagnent 20% du revenu récurrent qu'ils nous ramènent. Donc, il suffit qu'ils ramènent parfois juste un client qui a un peu de bien et ça leur perturbe leur rendement, plus ils gagnent de l'argent. Et aujourd'hui, il y a certains utilisateurs qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois juste en ayant parlé à leur réseau et à leur audience du produit en fait. Et du coup, bah nous, on est contents parce que ça fait grossir le user base et on fait grossir le MRR. Eux, ils sont contents parce qu'ils ont tout à gagner à le mettre en avant. Donc en fait, ça les pousse à le faire parce qu'ils ont un reward en fait à le faire. Et donc, créer un système d'affiliation. Et après, tu peux aller loin dans ton système d'affiliation, créer des systèmes où tu peux avoir une double rétribution pour l'affilié, pour le filleul. Tu peux aussi faire plusieurs niveaux d'affiliation. Enfin bref, il y a plein de trucs que tu peux mettre en place. Nous, c'est plutôt simple ce qu'on a mis en place. On a utilisé un tool qui s'appelle Rewardful que tu peux connecter à ton Stripe et qui va vérifier qui a ramené le client, entre guillemets. Et ça nous a permis aussi d'avoir des users qui sont aussi des influenceurs, en fait. Donc, genre, ça peut être des YouTubers, des coachs immobiliers, tu vois, des gens qui ont une audience, qui parfois peut être des plusieurs centaines de milliers de personnes, tu vois, et qui, en fait, vont être encouragés à mettre en avant l'outil parce qu'eux, dans leur business model, souvent, ils n'ont pas de récurrence. Et en fait, l'outil, ça peut être un moyen back-end pour eux sans avoir aucune connaissance technique, sans avoir à faire du support, sans rien avoir à faire à part en parler, de générer du revenu. Et du coup, ça nous permet d'avoir des gens qui ont une influence sur le marché, qui parlent du bien du produit et qui parlent bien du produit et qui du coup le mettent en avant. Nous derrière on les rétribue parce qu'ils le méritent et ils nous rapportent des clients et puis nous ça nous rapporte des clients, donc tout le monde est content et leur audience en plus c'est win-win parce qu'ils obtiennent de l'information sur un outil qui est super et qui les aide dans leur quotidien. Donc du coup ça permet comme ça de gérer un référent qui te génère de l'acquisition en fait in fine et de le... Alors c'est encore mieux si c'est pas artificiel, c'est-à-dire que si tu en as du référent naturel, il en faut de toute façon, et nous on en a aujourd'hui, parce que justement tu as un outil qui est top et que les gens ont envie d'en parler, mais tu peux encore mettre de l'essence entre guillemets sur le feu si par-dessus tu mets un système d'affiliation qui encourage les gens à le faire en fait.
Très clair, trop cool. Tu parlais aussi de l'effet flywheel, donc comment mettre en place des systèmes qui s'auto-alimentent et tu vois, qui continuent au maximum. Quelle est toi la machine à contenu, quelle est la machine à contenu que tu as pu mettre en place et que tu as peut-être associé avec la publicité, etc. Comment tu as mis en place cette flywheel, tu vois, pour Superhot?
Yes. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, notre système d'acquisition, il est basé sur deux piliers actuellement. On est en train de voir pour en rajouter un troisième, mais actuellement, il y a le content, justement, et le paid advertising. On a aussi l'affiliation, etc., les referrals qui sont à part, dont on a parlé, mais les deux gros sujets qu'on a au niveau de l'acquisition, c'est le content et le paid advertising. Le content, comment tu mets en place? Tu mets en place un content model. Alors celui qui l'a bien expliqué, c'est Gary Vaynerchuk. J'avais trouvé il y a longtemps une slide qu'il avait fait là-dessus, où en gros, tu prends du long form content, si possible que tu peux documenter parce que c'est plus facile que de le créer. Nous, on crée quand même beaucoup, mais en gros, tu crées un long form content qu'après tu vas distribuer sous forme de long form content et puis après redistribuer sous forme d'autres formats en fait. Donc, tu peux prendre par exemple une vidéo YouTube qui dure, 30 minutes, la transformer en podcast, la découper pour en faire des shorts, tirer des citations de ce truc et en faire des images que tu publies sur Instagram, sur LinkedIn, ce que tu veux, prendre le transcript, le transformer en article, en faire un article de blog. Et bref, en fait, tu crées comme ça une, on va dire, une structure de contenu où tu pars d'un contenu pilier, puis après, tu le découles en plusieurs contenus. Donc nous, ce qu'on a, c'est que notre contenu pilier principal, c'est des vidéos YouTube, et qu'après, on découpe principalement en short, et ça peut être aussi des images, des citations, des newsletters, ce genre de trucs. Mais globalement, c'est un contenu pilier YouTube, et après des shorts qui sont publiés sur TikTok, Instagram, YouTube Short, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Une fois que tu as mis en place une machine, que tu arrives à sortir du contenu de manière régulière, ou en gros, tu as ta pipeline, où tu passes de lister des idées à produire le contenu qui soit tourné, monté, publié, retravaillé, etc. Tu peux avoir une cadence de contenu où tu sors du contenu de manière régulière, en tout cas le maximum, avec le maximum de régularité que tu peux et avec la maximum de qualité que tu peux, et après mettre en place quelque chose où ça commence à te créer vraiment un following et où tu commences à avoir des résultats. Ce contenu, en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je parlais d'effet flywheel au niveau aussi de l'acquisition et de la liaison de tes canaux d'acquisition, c'est qu'en fait, quand tu publies des vidéos sur YouTube, du contenu sur Facebook, sur Instagram, etc., tu peux aussi utiliser ces audiences que tu vas toucher organiquement dans le advertising en les retargetant. Donc nous, c'est exactement ce qu'on fait. Tous les gens qui vont voir la vidéo YouTube, qui vont rechercher la chaîne, etc., ou qui vont aller sur Facebook, sur nos contenus, etc., derrière, on va les retargeter pour les envoyer sur des funnels où on va générer des leads, en fait, via des funnels lead generation. Et après, en fait, créer cette boucle entre le content et le advertising. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est qu'en fait, on gère aussi des cold audience, où on va targeter des cold audience qui sont basés sur notre marché, mais qui ne nous connaissent pas forcément via du advertising, les faire rentrer comme lead, et dans notre séquence de CX automation, de mail, SMS et compagnie, on les renvoie en fait vers du contenu. Et du coup, après, ils visualisent du contenu, potentiellement, ils vont être retargetés via nos ads, via du follow-up par email, téléphone, SMS, etc. Et en fait, tu vois, tu crées une boucle comme ça, où en fait, tu essayes de faire rentrer le maximum de gens dans cette boucle, et ça te permet à la fois de créer de la trust dans ton contenu parce que t'es un expert dans ton sujet, tu publies régulièrement des choses qui aident les gens, qui apportent de la valeur, et du coup il y a une brand association avec ce contenu et ton produit, ta marque, etc. Et en plus tu fais rentrer des gens de manière scalable et prédictible via le paid advertising ou via du contenu organique. C'est plus difficile, ça prend du temps, c'est long, etc. Là tu peux mettre de l'essence dessus avec du paid advertising et retargeter les gens qui te suivent déjà de manière organique, targeter des cold audience et les faire rentrer dans ton système de content. Et tout ça crée une boucle qui est intéressante. Là, on réfléchit à mettre aussi en place du cold outreach, tu vois, via LinkedIn, mail et compagnie, téléphone. Mettre en place aussi une équipe de setting, où en fait, ils vont rappeler tous nos leads qu'on génère, parce qu'on génère des milliers de leads tous les mois. Et en gros, l'idée, c'est de les rappeler sous deux minutes et commencer à créer du lien, tu vois. Et en fait, si tu arrives, pareil, là, tu vois, ils rentrent dans la machine. C'est que si tu as du contenu, la personne, elle est retargetée par une ad, elle va remplir un lead magnet. Elle est rappelée, tu crées de la relation, tu peux même la mettre dans ta communauté après sur Facebook, du coup elle interagit avec d'autres utilisateurs qui sont contents du produit. Derrière, après, elle revoit du contenu de ta part. Peut-être après, derrière, elle va booker une démo, prendre l'outil et devenir un client, tu vois. Et continuer à obtenir de la valeur parce qu'on continue de produire du contenu, donc elle en retire de la valeur. On continue à lui envoyer des newsletters qui sont value-packed et du coup elle obtient de la valeur. Enfin bref, et on reste dans son esprit aussi. Ça te permet aussi d'avoir une omniprésence aussi dans l'esprit des gens, même tes clients. Moi, je continue de targeter avec les ads et avec du contenu nos clients en fait. Même s'ils sont déjà clients et qu'on ne va pas forcément les avoir plus en clients, le fait de rester dans leur esprit, qu'ils savent que tu es là et qu'ils te votent en permanence, tu restes dans les esprits des gens en fait. Et c'est super important. Et c'est pas pour rien que Coca-Cola, McDonald's et compagnie, ils dépensent des milliards en publicité. C'est qu'ils veulent que tu restes dans leur tête, rester dans ta tête en fait. Alors nous, on n'a pas leur budget, donc on ne peut pas être autant là. Mais en tout cas, on essaie de le faire de manière intelligente et pouvoir avoir cette omniprésence dans la tête des gens et leur apporter un maximum de valeur du même temps en fait et créer des vraies relations in fine avec les clients.
Je trouve ça trop bien. Tu vois, en plus ce que tu disais là, je rebondis sur le pilier. Tu as le pilier de contenu, donc effectivement, t'as toute cette machine qui s'auto-alimente et tu recycles ton contenu au maximum. Et d'avoir des piliers contenu, je trouve ça trop bien. Tu vois, de dire par exemple, je fais une vidéo YouTube qui en fera un short, qui fera peut-être un guide dans un article de blog, qui fera peut-être un post LinkedIn que je découperai en 5 parties, et de faire 5 posts LinkedIn différents. Tu vois, et de créer une machine à contenu comme ça, je trouve ça trop trop bien. Et j'ai l'impression que tu as dans ta dynamique, tu as mis en place quelque chose qui scale, tu vois, qui arrive à aller chercher vraiment, tu as du scale vu que tu es sur un modèle SaaS. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu mets en place qui sont difficilement scalables ou que tu as eu du mal à scaler?
En fait, c'est super important. Ça a été aussi un pilier important de notre croissance. Alors, c'est contre-intuitif parce qu'on se dirait, bah, si ça ne scale pas, pourquoi le faire ? Mais en fait, il y a plein de trucs qui ne scale pas, qui en fait sont importants au développement de ta brand, de ton business, etc. Nous, par exemple, Mathieu, mon associé, pendant 2 ans, il a fait un webinar minimum par semaine pour pouvoir apporter la valeur aux gens et puis envoyer sur la solution. On a fait plein de calls 101 pour avoir du feedback utilisateur. Aussi au niveau des démos, on est encore sur des calls 101 en fait, où pour s'inscrire sur l'outil, la plupart ils prennent une démo. T'as plein de... Moi par exemple, ça m'est arrivé de répondre à plein de tickets d'utilisateurs, de support, alors que c'est pas mon rôle à la base, mais parce qu'en fait, ça aide in fine à la brand. Et puis quand t'as soit Mathieu ou moi qui répondent à leurs tickets, ils sont contents, tu vois. On va faire un loom pour souhaiter la bienvenue à un user, tu vois, personnalisé, tu vois. Je sais pas, par exemple, ça peut être moi j'ai débugué, tu vois, des trucs sur des sites des users. C'est pas moi qui fais le site, j'ai rien à gagner à débugger le truc, mais ils ont un site de réservation ou un site pour leur conciergerie, un truc qui va pas. Ben, je vais prendre une demi-heure à débugger un petit bug dessus, comme un prestataire de service, tu vois. Je le fais gratuit, ça scale pas et je pourrais pas faire ça pour 200 000 personnes, mais in fine, ben, ça crée de la trust dans la brand. Ça les a aidés, du coup ils sont contents et ils sont super heureux que j'ai pu le faire pour eux. Ça leur débloque un problème qui, moi, me prend 30 minutes, ça leur aurait payé 30 heures. Bah, c'est des trucs qui, factuellement, ça apporte zéro leverage à l'entreprise. Ça scale pas et c'est pas sûrement pas la meilleure, entre guillemets, utilisation de mon temps à long terme, mais à court terme, en fait, ça aide la boîte, tu vois. Et il y a des trucs comme ça où, en fait, c'est contre-intuitif, mais je pense que ça aide l'entreprise, même si c'est pas le truc avec le plus de leverage du monde, tu vois. Et pareil aussi, tu vois, sur Superhot Elite, j'en ai parlé brièvement, mais l'offre en elle-même est pas hyper scalable. On a apporté des éléments de scalabilité parce qu'on a, on est dev et on apporte des trucs, tu vois, technologiques qui permettent de rendre ça scalable au maximum. On le standardise aussi pour que ce soit une machine et que ce soit pas genre vraiment du full custom et que impossible à scaler. Mais in fine, ça reste un service avec des humains et des choses, des produits, tu vois, physiques même qu'on envoie. On envoie un photographe chez l'utilisateur. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça qui, c'est difficile d'avoir 1 million de clients comme ça. Mais cette offre, elle nous a permis de gérer notre acquisition, comme je disais, de manière maîtrisée et rentable. Et elle a permis d'apporter un maximum de valeur aux users in fine, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui, si tu le penses au premier abord, tu te dis, ouais, ça m'apporte zéro leverage, ça scale pas, pourquoi je m'embêtais à le faire une fois, ou même 10 fois, ou 100 fois, ou 1000 fois. Mais des fois, en fait, c'est en faisant le travail qui est rébarbatif comme ça, qui est pas scalable, pas super intéressant, ou alors voilà, qui est pas le truc le plus enchantant du monde, qui in fine te permet d'après aller sur des modèles plus scalables et de développer ta boîte. Donc bon, après, il va beaucoup plus loin dans son essai, Peter Thiel, et avec d'autres concepts vis-à-vis de ça. Mais nous, c'est un peu comme ça qu'on l'a adapté. C'est que, en fait, ce qu'on fait, notre mindframe, c'est qu'on part du principe qu'on veut maximiser la satisfaction client et l'acquisition client, et que les gens entendent parler de nous, et qu'une fois qu'ils ont entendu parler de nous, ils deviennent clients et qu'ils soient heureux d'être clients, en fait, et qu'ils le restent. Et du coup, si tu pars de cette mindframe et que tu es prêt à faire quoi qu'il en coûte, entre guillemets, pour le faire, même si c'est pas scalable, même si c'est chiant, boring, etc., et que tu le fais, bah, tu prends un avantage, je pense, sur ta compétition, et même si à court terme, ça paraît non scalable et pas intelligent, etc.
Et quels sont les leviers que tu as mis en place, justement, qui sont scalables ?
Ouais, alors du coup, effectivement, il faut faire des trucs pas scalables, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester là-dedans. Plus tu peux utiliser de leverage, plus c'est intéressant aussi. Donc, il y a Naval Ravikant, qui est un VC américain et un serial entrepreneur, qui a fait un essai là-dessus, qui est pas mal. Et du coup, je vais le paraphraser ici, mais en gros, il t'explique qu'il y a 4 types de leverage. Les médias, le code, labor, donc le travail, et l'argent. Et en fait, j'aime souvent appliquer des mental models comme ça, où tu pars d'un truc comme ça et tu essaies de l'appliquer à ta stratégie. Et nous, par exemple, la manière dont on utilise l'argent, alors tu peux lever de l'argent, par exemple, c'est une forme de leverage. Justement, quand tu lèves de l'argent, tu as de l'argent qui n'est pas à toi, qui te vient, ou genre tu fais un emprunt, tu mets un petit apport et tu as plus d'argent. C'est une manière d'utiliser l'argent avec un leverage. Nous, la manière de jouer qu'on utilise dans l'entreprise, c'est via le paid advertising, en fait. Où plus on gagne de l'argent et plus on a un business model rentable rapide, et plus on réinvestit de l'argent dedans, plus ça fait une boucle comme ça qui fait grossir, entre guillemets, le business. Tant que tu as un ROAS et un retour sur, enfin, un profit qui est important sur tes ads, plus tu réinvestis dedans, plus ça crée une machine qui grossit et qui fait de l'argent, entre guillemets. Tu mets 1 euro en entrée, tu en ressors 10 en sortie. bah, tu vois que ça peut vite trop grossir, quoi. Après, c'est dur de maintenir ça à scale. Donc, plus tu scale tes budgets, plus il faut être smart dans ta manière de gérer tes ads et compagnie. Mais globalement, plus tu arrives à scale ces budgets et plus tu fais grossir ton acquisition comme ça, plus tu, bah, tu utilises de l'argent comme leverage, entre guillemets. Chose que quand tu fais du contenu organique, bah, entre guillemets, tu utilises que ton temps ou le temps de ton équipe. Mais pareil, tu vas utiliser de l'argent, par exemple, pour payer un monteur vidéo pour qu'il monte tes vidéos à ta place et que tu n'aies pas à le faire, pour payer des gens qui vont faire du call outreach, j'en sais rien. Enfin, en gros, tu utilises l'argent à plein de niveaux pour, comme leverage. Après, tu as le labor ou le travail. Bah, aujourd'hui, il y a toute une équipe dans Superhot qui travaille à fond. Et en fait, la réussite du projet, elle est aussi et surtout grâce à eux, en fait. Que ce soit moi ou mon associé, on travaille énormément aussi, mais on n'a que 24 heures. Et du coup, il y a plein de trucs qui aujourd'hui sont faits en entreprise où ce n'est pas nous qui le faisons parce qu'il y a des gens qui, dans l'équipe, qui font sûrement encore mieux que nous et du coup, qui permettent d'apporter la valeur aux users qui soient indépendants de notre temps. Donc, c'est une manière aussi d'obtenir le leverage. Au niveau du code, bah, on est un SaaS et en fait, de manière générale, déjà en utilisant le code au niveau du SaaS, ça nous donne une scalabilité qui est 10 fois plus importante qu'une entreprise de service classique, tu vois. Si on était une entreprise de service pour le long courte durée, basée sur l'humain, où il fallait faire beaucoup de process manuels humains, bah pour scaler la boîte, il faudra recruter plus de gens. Donc, pour recruter plus de gens, en fait, tu as des coûts linéaires avec ta croissance, tu vois, qui vont augmenter de la même manière. Du coup, ta profitabilité, elle ne va pas vraiment augmenter. Nous, ça a coûté super cher de développer l'outil à l'instant T. Ça a continué de coûter beaucoup d'argent et de gérer toute l'équipe, etc. Mais en fait, plus le temps passe et plus le MRR gros, plus la profitabilité augmente. Parce qu'on a des coûts fixes qui sont assez importants, mais des coûts variables qui vont rester fixes dans le temps, en fait, tu vois. Justement parce que c'est du code. Et le code, on l'applique aussi à plein d'endroits, tu vois, dans le business. Pour mettre en place le système d'affiliation, bah, j'ai codé un truc où, en fait, pareil, t'as tout un portail d'affiliation qui est géré là-dessus. Et en fait, j'ai pas à répondre à tout le monde quelles sont tes commissions, à qui combien tu as droit de commission ce mois-ci, enfin, tu vois, ce genre de truc. Au niveau marketing, mettre du code, bah, tu peux créer des lead magnets, tu vois, qui sont basés sur un apport de valeur qui est généré via du code aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où tu peux mettre du code à plein d'endroits dans ton business qui t'apporte du leverage et de la scalabilité qui ne serait pas possible autrement si tu devais faire des trucs manuels. Et après, au niveau média, nous, comment on l'utilise, c'est via le contenu qu'on fait. Il y a des vidéos YouTube qu'on produit qui font plusieurs dizaines de milliers de vues. Si on voulait parler à autant de personnes one shot, ça serait compliqué. Et passer un message, ça serait compliqué. Bah, aujourd'hui, quand tu publies une vidéo ou là, comme ce que tu vas faire un podcast, bah, tu la produis une fois, ça demande un effort une fois, et puis après, tu as des rewards infinis dans le temps, tu vois, pour peu que tu arrives à ce que des gens le voient, tu vois. Mais entre guillemets, ça te donne aussi un leverage à ce niveau-là. Dans l'accompagnement élite, par exemple, on a des vidéos qui sont là pour accompagner le user qui ne demande pas de temps humain. En fait, il a juste à regarder la vidéo, ça serait la même chose que si on le disait à une personne, mais on le produit une fois et puis on peut le montrer à 10 000 clients. Il y a toujours beaucoup d'aspects manuels dans Superhot Elite, c'est pour ça que c'est pas hyper scalable, mais il y a quand même des choses scalables qu'on met là-dedans. Enfin voilà, en gros, utiliser ces quatre leviers là pour essayer de réfléchir à du scale dans ton entreprise et du leverage. Et je pense que c'est un mindframe qui est pas mal, tu vois, le fait qu'il a, enfin, de les ranger dans ces buckets, ça te permet d'avoir une restriction de pensée entre guillemets pour essayer de réfléchir à comment tu l'appliques à ton business. Donc moi, si je démarrais de zéro, c'est quel leverage je peux utiliser dans toutes ces cases là pour arriver à créer justement du leverage dans mon business et de la scalabilité. Parce que c'est ce que tu vas rechercher en fait pour vraiment faire croître ta boîte. Et je pense qu'il y a des boîtes qui s'y prêtent plus que d'autres. Typiquement, un SaaS, bah, c'est inhérent à ton business model. Quand tu as du code, tu peux le distribuer de manière infinie, quoi, entre guillemets. Même s'il y a certes un petit peu de complexité qui est rajoutée à chaque nouveau client, un petit peu de coût, mais il est marginal comparé à si c'était du service. Et après, tu as d'autres business models. Je suis sûr que tu peux, même des business models classiques, où tu peux réfléchir à des méthodes de scalabilité que tu pourras adopter. Tu vois. Je sais pas, moi, si tu as par exemple une boulangerie, tu peux réfléchir à un mode de franchise ou de licensing de ta boulangerie, tu vois, où tu peux arriver à avoir plein de locations. Enfin, il y a plein de. Y a la scalabilité, le leverage, tu peux l'utiliser de manière différente. Par exemple, dans l'immobilier, quand on emprunte de l'argent, moi, quand j'ai fait la LCD, j'ai emprunté de l'argent, j'ai mis une certaine somme d'argent en apport, mais en fait, j'obtiens les rewards de cet investissement immobilier basé sur la somme totale d'argent que j'ai emprunté, plus l'argent que j'ai mis moi. Du coup, j'ai utilisé l'argent qui n'était pas à moi, donc j'ai utilisé le leverage de l'argent, tu vois. Alors, c'est pas comme un SaaS, il n'y a pas vraiment de code dans mon truc, il y en a un petit peu. Parce que, voilà, mais en gros, dans mon business model, de base dans l'immobilier, tu n'as pas de code, mais tu peux utiliser par exemple le levier de l'argent, tu peux utiliser peut-être le levier du média pour faire ton marketing, tu peux essayer de réfléchir à ton business model et rajouter ces buckets de leverage pour obtenir du scale dans ta boîte.
Trop bien. Et le dernier framework que tu avais en tête, qui est aussi un sujet du moment pour moi, parce que j'ai fini le livre de Alex Hormozi sur l'offre irrésistible. Quelle est, toi, justement, ta philosophie sur le sujet? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, justement, pour créer cette offre irrésistible?
Yes, bah déjà, justement, tu as bien fait de lire ce livre, parce que c'est ce que j'allais dire, lisez-le. C'est probablement l'un des meilleurs livres que j'ai lus de ma vie. Donc, vraiment, il est top. Dedans, il fait la quintessence, en fait, de plusieurs formations que j'ai faites qui m'ont coûté probablement plusieurs dizaines de milliers d'euros pour comprendre comment construire une offre qui est sympa. Donc, à 1$ le livre, allez l'acheter, ça vaut le coup, quoi. Mais effectivement, construire une offre irrésistible. Alors, à l'époque, quand on a pensé Super Hôtel Elite, en tout cas dans sa première version, il n'avait pas encore sorti ce livre, mais on a appliqué pas mal de stratégies qu'il présente dedans et qui ont bien marché pour nous. Et en regardant à posteriori, en fait, tu vois, dans sa manière, par exemple, qu'il a d'expliquer la valeur perçue, où c'est ton dream outcome multiplié par ta perceived likelihood of achievement divisé par ton, je crois que c'est effort et sacrifice, c'est le délai que ça te prend. D'essayer dans ta réflexion de ton offre de maximiser le numérateur et minimiser le dénominateur, bah, c'est ça qui va te permettre d'avoir in fine en output une offre qui a une valeur perçue élevée. Donc en gros, et allez lire le livre, il explique 10 fois mieux que moi, mais si tu maximises ton numérateur avec ton dream outcome, donc nous, typiquement avec Superhot, si je déconstruis Superhot Elite, le dream outcome, c'est devenir rentier immobilier, gagner un maximum d'argent en y passant un minimum de temps. Ça, il y a à peu près toute la planète qui aimerait bien pouvoir le faire et ça a une valeur perçue qui est élevée. Ou en tout cas, une bonne partie des gens qui aimeraient pouvoir gagner beaucoup plus d'argent sans y passer de façon décorrélée leur temps, etc. Ça a une valeur perçue qui, déjà de base, est élevée en tant que dream outcome. Au niveau de la perceived likelihood of achievement, comment nous, on l'a maximisé, c'est que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec le user ou pour le user. Donc, il n'a même pas à se faire confiance lui-même. La seule chose qu'on a à faire, c'est à lui translater la confiance qu'il a en nous, qu'on va le faire pour lui. Donc, déjà, ça enlève une barrière, entre guillemets, de confiance, ou des fois, quand tu es dans des systèmes où tu es en vente auprès de quelqu'un, il faut déjà qu'il ait confiance en lui et en la capacité d'utiliser le produit pour pouvoir vraiment avoir la valeur. Parce qu'il pourrait se dire, bah, ouais, moi, je connais rien l'informatique, je ne vais pas y arriver, donc cette offre, elle n'est pas adaptée pour moi. Bah, tu vois, tu as plein de leviers comme ça sur lesquels tu peux jouer pour essayer d'augmenter cette valeur, cette probabilité perçue d'obtenir le résultat, où en fait, bah, tu réfléchis à tous les pain points ou toutes les objections, par exemple, que tu pourras avoir en sales call ou dans tes activités de vente, et après, mettre une solution en face de ça. Autre point aussi, nous, on a deux garanties en fait sur Super Hôtel Elite, où tu as la garantie 30 jours satisfait ou remboursé classique, où en gros, suffit que le mec, il n'aime pas ma tête, il peut dire, j'aime pas ta tête, je vais être remboursé sous 30 jours, il peut le dire, et il n'y a pas de souci. Et on a une autre garantie en plus par-dessus, où on a une garantie de résultat ou remboursé sur un an. Donc en fait, il a un an pour obtenir le résultat qu'on lui promet, qui est en gros 80% de taux d'occupation, ou en fait, s'il ne l'obtient pas ou qu'il n'est pas satisfait de l'accompagnement, qu'il a appliqué ce qu'on lui a dit, mais ça ne marche pas, il peut se faire rembourser aussi. Donc en fait, in fine, tu baisses le risque aussi, et moi je l'aurais rajouté aussi à la formule en dénominateur. L'idée, c'est de baisser le risque de la personne. Et du coup, avec ces garanties, bah, le risque, il est quasiment zéro. Il risque à la limite de perdre du temps, et on pourrait même réfléchir à une garantie qui le rembourse en tant qu'il a pensé, j'en sais rien. Mais tu vois, ça peut te permettre d'augmenter ça. Tu peux aussi réfléchir à ton business model, à le tight, au résultat des clients, tu vois. Nous, on avait réfléchi à une offre aussi où ça pourrait être un pourcentage de revenus supplémentaires qu'il génère, par exemple. Et du coup, là, bah, en gros, il n'a rien à payer tant qu'il ne gagne pas d'argent, quoi. Et s'il gagne de l'argent, ça va être le pricing du produit. En fait, c'est une garantie intrinsèque à ton business model, entre guillemets. C'est que si la personne ne gagne pas d'argent, ben... il t'en gagne pas non plus, donc il n'a rien à sortir. Donc en gros, c'est implied qu'il va avoir du succès, tu vois. Après, sur le délai, nous, en gros, notre promesse, c'est qu'en 90 jours, tu transformes ta location courte durée. Et en plus, après, tu as un an pour atteindre les 80% de taux d'occupation, etc. Mais plus tu arrives à réduire ce délai, plus ça a une valeur perçue élevée. Si nous, on pouvait créer un système, tu vois, avec du code, qu'ils appuient sur un bouton et ils deviennent millionnaires rentiers, tu vois, ce truc, il vaut beaucoup d'argent, tu vois. Donc, c'est pas possible à l'heure actuelle, mais si on pouvait inventer ce truc, ça serait génial, tu vois. Et les gens, ils paieraient beaucoup pour appuyer sur ce bouton parce que le délai serait hyper réduit et qu'en fait, ils obtiendraient la valeur, leur dream outcome, tu vois, et leur situation future désirée instantanément. Donc, si tu arrives à réduire ce délai le maximum possible, bah, tu augmentes la valeur perçue de ton offre. Et après, tu as les efforts et sacrifices. Les efforts, entre guillemets, de ce que j'ai compris, et encore une fois, allez lire le livre, il explique beaucoup mieux que moi, mais c'est ce que tu dois commencer à faire que tu faisais pas avant pour obtenir ton dream outcome, et tes sacrifices, c'est ce que tu dois arrêter de faire pour être en mesure d'obtenir ton dream outcome. Et donc Nous, les efforts, on les a minimisés parce qu'en fait, c'est un done with you programme. Il y a aussi beaucoup de done for you. C'est que bah, ses photos, il n'a pas embêté assez de les faire. On lui envoie photographe, ils vont les faire pour lui. Sa serrure automatique, il n'a pas besoin de s'embêter à la choisir. C'est nous qui l'avons et on la développe, on lui envoie pour lui. Son automatisation, on va lui automatiser plusieurs de ses biens, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour lui. Du coup, on lui enlève un maximum d'efforts et de sacrifices. Et quand même, dans l'idée du programme, c'est qu'après, il soit indépendant. Donc, on lui explique aussi comment faire pour qu'après, il soit pas dépendant de nous, entre guillemets, pour le faire. Donc, il y a aussi cet aspect-là où on lui fait faire quand même des choses pour qu'il devienne indépendant parce qu'on pense que c'est important dans le programme et qu'il soit pas dépendant de nous et qu'il doive prendre 10 super OTI pour faire vivre ce LCD. L'idée, c'est qu'il devienne indépendant aussi, donc il apprenne. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour lui et avec lui. Donc, du coup, on réduit aussi cet effort et sacrifice. Et en fait, toutes ces choses, nous, on les a pensées comme ça, sans vraiment avoir cette formule en tête, mais en fait, ça respecte vraiment cette formule, en fait, la façon dont on a construit l'offre. Et après, nous, comment on avait fait pour la construire, et je pense qu'il explique aussi dans le livre, c'est qu'en fait, on avait pris chaque pain, on a pris la situation future désirée de notre user lambda, qui a en gros maximisé son revenu avec sa location courte durée en minimisant le temps qu'il a y passé. Et en fait, on a listé tous les obstacles auxquels il va faire face pour arriver à ça. Donc typiquement, il faut que tu optimises tes annonces sur les plateformes, il faut que tu aies un site de réservation en direct pour devenir indépendant, il faut que tu aies des photos au top parce que c'est l'élément le plus important de ton annonce. Pour que tes photos elles soient au top, il faut déjà que ta déco elle soit bien parce que sinon ton robot aura des super belles photos faites avec du bracketing, un grand angle, ce que tu veux, ton bien il ressemblera à rien. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. En fait, on a listé, nous, dans notre tête, le système idéal, en fait, ce qu'il faut que tu aies en place pour obtenir ce dream outcome et en fait tous les problèmes que tu as rencontrés pour y arriver. Et après chacun de ces problèmes, on a réfléchi à une solution. Et avoir une solution qui a la plus haute valeur perçue possible et en essayant qu'elle soit le plus scalable possible. Et donc après, typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout sur, en fait, on a mis la solution vraiment de ouf idéale qu'on est sûr qu'il y a une valeur perçue super élevée. Et en fait, on a enlevé quelques trucs parce que c'était impossible à mettre en œuvre, tu vois. Je sais pas, moi, par exemple, une des idées qu'on avait, c'est qu'on allait chez le user, tu vois, nous-mêmes prendre les photos, nous-mêmes faire l'automatisation, tu vois. On peut pas le faire vraiment pas à scale, tu vois. Mais il y a des trucs qu'on a gardés. Par exemple, on envoie toujours le photographe chez le user. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qu'on fait encore, qui sont pas hyper scalables, mais qu'on a gardés parce qu'ils ont une haute valeur perçue. On leur fait leur site internet de réservation aussi, tu vois. Quand ils rejoignent Super Hotel Elite, ils ont pas soucié de la technologie, tout ce qu'ils veulent. L'automatisation, on leur montre comment on fait, on le fait pour un de leurs biens. Et en plus, on leur fait un site internet de réservation où ils peuvent obtenir des réservations directes. Ils ont pas à passer par une agence ou je ne sais quoi qui va leur prendre l'équivalent du prix de Super Hotel Elite, tu vois, pour faire leur site. Du coup, il y a plein de trucs comme ça où on a réfléchi à toutes les choses qui ont une haute valeur perçue et qu'on était prêt à faire. Et après, pour moi, Super Hotel Elite, il a une valeur réelle qui est bien supérieure au prix qu'on demande et du coup, il est facile à vendre, entre guillemets. Et là, on réfléchit même à d'autres offres qui seraient encore plus adaptées aux conciergeries et à ce genre de business où on passe par le même process, en fait, pour réfléchir à notre offre. Et on va sûrement sortir de nouveaux concepts comme ça où, en fait, j'appelle ça, moi, l'empathie focalisée. Il faut que tu te mettes en empathie vis-à-vis de ton avatar client et tu te mets dans sa peau et ça t'aide en fait à tous les niveaux, que ce soit dans ton acquisition, dans ton copywriting, à tout ce que tu veux. Si vraiment tu arrives à te mettre dans la peau de ton avatar, et c'est pour ça que j'appelle ça une empathie focalisée, c'est qu'en fait, tu ressens ses émotions, tu te mets vraiment dans son mindset, etc., ses valeurs, les problèmes qu'il rencontre au quotidien et vraiment tu essayes de faire cette introspection dans ton avatar client ou tes avatars clients, parce qu'il peut y en avoir plusieurs aussi. Ben derrière, tu arrives à sortir des trucs comme ça, que ce soit au niveau de l'offre, du copywriting, de ta manière d'aborder les choses, etc., qui sont beaucoup plus pertinents, je pense, pour ton audience et qui ont beaucoup plus d'effet quoi, derrière. Mais voilà, en tout cas, allez voir le livre d'Alex Hormozi. Il est top, il va beaucoup plus dans le détail que ce que je viens de le faire là et bien mieux que je le fais moi, donc allez l'acheter.
Tu l'as super bien résumé quand même. Non, franchement, c'est trop cool et tu nous as fait voyager vraiment dans ton offre concrètement, donc trop trop bien. On arrive à la fin de l'épisode, Gaëtan. Franchement, t'as partagé des frameworks de ouf et c'est trop trop bien. Quel est le dernier conseil d'amis que tu pourrais partager? Ça peut être sur ce que t'as dit, sur l'entrepreneuriat, sur du perso, sur ce que tu veux.
Alors moi, il y a deux phrases que j'ai souvent en tête en fait et qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours d'entrepreneur, parce que bon, là ça peut paraître facile de... Voilà, on est à 7 chiffres de ARR, machin, on a l'impression peut-être que c'est facile, mais en fait, c'est pas du tout facile. On a galéré, on a fait plein d'erreurs, etc. Et du coup, il y a eu des moments difficiles, et même moi par le passé, dans mon expérience professionnelle et autres. Et du coup, je garde deux choses en tête. Le premier, c'est une citation de Xavier Dolan que j'aime bien, qui dit que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Du coup, j'essaye de vivre avec cette mindframe, où en fait, il y a... bah en fait, tant que j'abandonne pas, que je travaille et voilà, que j'ose rêver et que j'ose faire, bah y a rien qui peut m'arrêter, entre guillemets. Le seul moyen de perdre, c'est d'abandonner, entre guillemets. Donc ça m'aide pas mal. Et après, il y a aussi le discours de Steve Jobs qu'il a fait à Stanford. Déjà, écoutez tout le discours parce qu'il est top, mais il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup aidé là-dedans, où il te dit qu'en gros, tu peux pas connecter les points en regardant en avant, tu peux que les connecter en regardant en arrière. Donc des fois, tu as juste besoin d'avoir confiance en la vie, avoir foi en quelque chose. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à relativiser quand il y a des moments difficiles et à juste me dire, OK, tout est un cadeau dans la vie. Même si ce passage, il est super frustrant, super difficile, qui m'apporte des émotions négatives, enfin, que je considérerais comme négatives de tristesse et compagnie, ou de peur, ou d'angoisse, ou ce que tu veux, in fine, tout est pour le mieux et tout te sert. Donc, si tu retiens ça en tête, en fait, même quand tu es dans un moment difficile, ça te permet de les traverser avec beaucoup plus de sérénité. Et bon, après, ça vient aussi de la philosophie stoïque, et souvent, on va peut-être pas rentrer dans tout ça, mais je pense que ça peut aider beaucoup d'entrepreneurs de réfléchir comme ça, parce que c'est un marathon et en même temps un sprint. Donc, il faut tout donner, se dépasser, être souvent un bourrin et un warrior dans sa tête, et en même temps être capable de faire ça sur la durée et passer des épreuves qui ne sont pas toujours faciles à passer. Du coup, ces deux mindframes m'ont beaucoup aidé. Et ça peut paraître ésotérique et beaucoup basé sur le mindset, mais en fait, c'est, je pense, même au-delà de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, le plus important, en fait. Si tu as ces deux choses en tête, tu es inarrêtable et tu peux aller décrocher les étoiles.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. L'entrepreneuriat, c'est un jeu qui est compliqué. Ça demande de l'énergie, c'est dur. Et c'est comme ça, faut l'accepter et faut avoir le bon état d'esprit. T'as raison, pour aller construire de belles choses après. Trop bien. Bah, merci à toi, Gaëtan. C'était top. Je te dis à très vite. On peut te retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à envoyer un max de force à Gaëtan, parce qu'il nous a partagé un max de valeur. Et puis je te dis à très vite.
Ouais, et puis pour ceux qui sont intéressés, qui recherchent une entreprise dans laquelle se développer et grandir, ben on recrute aussi massivement, donc n'hésitez pas à aller sur superhot.com/recrutement et on se fera un plaisir de discuter avec vous pour peut-être rejoindre notre aventure et se développer tous ensemble.
Trop cool, n'hésitez pas à postuler à balle, c'est des machines. Trop bien.
Merci.
À très vite, Gaëtan. Salut.
Merci.
Ciao.
Bye bye.
J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.